10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera avec cette conférence internationale sur le Soudan qui est organisée aujourd'hui à Londres, 2 ans jour pour jour après le début de la guerre civile. La France qui se rapproche un peu plus du Maroc au terme d'une visite du ministre français de l'Intérieur hier. Les deux pays annoncent un renforcement de leur coopération en matière migratoire notamment. Les défis nombreux ensuite qui attendent Brice Clotaire-Oligui Nguema au Gabon après l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Victoire qui reste toutefois à confirmer. Mali, 3 militants du mouvement pour la paix et du parti d'opposition Sadi qui se voit refuser une libération provisoire après 2 ans de détention. Et puis 2 ans de prison, 1 million de francs CFA d'amende au Bénin, la réquisition du procureur contre le cybermilitant Steve Amoussou, accusé d'être le frère Unvi, une voix critique du président Talon. 2 ans après le début de la guerre au Soudan, 1 an après une conférence similaire à Paris qui avait recueilli 2 milliards d'euros, le monde se donne à nouveau rendez-vous aujourd'hui à Londres pour une conférence internationale co-organisée par la Grande-Bretagne avec la France, l'Allemagne et l'Union européenne. On attend la participation des États-Unis, de l'Union africaine, mais aussi de la Ligue arabe, entre autres. Il s'agira de trouver une réponse à la crise humanitaire et aux quelques 13 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer au Soudan. Oui, mais les protagonistes de cette guerre, quant à eux, ne seront pas présents, Ouda Ibrahim.
Comme l'année dernière, les belligérants au Soudan ne sont pas non plus conviés à Londres, ce qui a fait réagir le ministre soudanais des Affaires étrangères qui a protesté une nouvelle fois contre le fait de mettre sur un pied d'égalité l'État soudanais et les paramilitaires. Le ministre a également critiqué l'invitation à cette conférence des parties prenantes dans la guerre, comme le Tchad et les Émirats arabes unis. En plus de ces deux pays, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, tout comme la Suisse, le Canada et la Norvège participent à cette conférence. Il est important que ces pays, dont certains sont impliqués dans le conflit, soient autour de la table, affirme une source diplomatique. Les 4 chefs de la diplomatie des pays co-organisateurs ouvriront la conférence à 11h. Les discussions auront lieu ensuite à huis clos. Il y sera question de remobiliser la communauté internationale autour du Soudan, de la protection de civils et de réactiver l'acheminement de l'aide humanitaire, d'affirmer à nouveau qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit.
Ouda Ibrahim. À peine le réchauffement amorcé entre la France et l'Algérie, de nouvelles tensions. Et Alger persiste d'ailleurs. Elle défendait hier soir sa décision souveraine d'expulser 12 fonctionnaires français, motivée par l'arrestation de 3 ressortissants algériens mis en examen vendredi dernier à Paris, dont un employé d'un consulat algérien en France. Une décision algérienne qui est regrettable et qui ne restera pas sans conséquences, affirmait ce matin la diplomatie française. Pendant ce temps, le rapprochement qui se confirme avec le Maroc. Bruno Retailleau effectuait une visite de 24 heures hier dans le royaume chérifien. Il a rencontré son homologue, le ministre français de l'Intérieur, a rencontré son homologue Abdelwafi Laftit. Ils ont annoncé le renforcement de la coopération, notamment en matière migratoire, Mathias Reynal.
Lors de leur conférence de presse conjointe, les ministres de l'Intérieur français et marocain ont affiché leur proximité. Bruno Retailleau.
Vous pouvez, monsieur le ministre de l'Intérieur, compter sur mon engagement personnel pour veiller au bon suivi de toutes nos orientations et faire en sorte qu'on augmente encore l'efficacité de cette coopération qui est désormais au plus haut niveau entre nos deux pays.
Bruno Retailleau et Abdelwafi Laftit ont tenu hier une réunion de travail avec une annonce phare à la clé.
On a convenu un certain nombre de points pour qu'on puisse améliorer la coopération pour les réadmissions entre nos deux pays, avec, sur votre proposition, un groupe mixte qui va permettre d'instruire notamment la nationalité marocaine ou non d'un certain nombre de clandestins.
Les deux ministres se sont félicités de l'excellence de la coopération sécuritaire entre Paris et Rabat, notamment sur la question migratoire.
Je pense que d'avoir des équipes mixtes françaises et marocaines qui vont nous permettre de faire ce travail d'identification, ça changera énormément les choses et ça va nous permettre, là encore, d'accroître une efficacité qui a déjà été bien accrue en matière de réadmission depuis ces derniers mois.
La coopération bilatérale entre la France et le Maroc devrait aussi progresser dans les domaines de la protection civile et de la gestion des grands événements. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Sauf surprise, il se dirige donc désormais vers l'investiture au Gabon après l'annonce de sa victoire à la présidentielle de samedi. Brice Clotaire-Oligui Nguema, élu avec 90,35% des voix. La Cour constitutionnelle doit encore confirmer ses résultats, mais si c'est le cas, le président élu sait qu'il pourra compter sur un parti pour tenter de bâtir une majorité lors des législatives à venir. En effet, la plateforme du Rassemblement des bâtisseurs lancée autour de lui a annoncé sa mue hier. Elle va devenir une véritable formation politique. Et d'ores et déjà, on sait que Brice Clotaire-Oligui Nguema devra faire face à de nombreux défis, François Mazet.
Qui dit immense espoir, dit nombreuses possibilités de décevoir. Brice Clotaire-Oligui Nguema semble le comprendre. Tôt hier matin, alors que beaucoup de Libreville-lois peinaient à aller au travail après avoir fêté son élection, il a adressé un avertissement public à l'équipe de la présidence juste après la levée des couleurs. Les Gabonais attendent beaucoup de nous. 90,35%, c'est une preuve de leur détresse. L'élection était hier, on ne s'arrête pas sur une victoire. La victoire, c'est le travail qui continue, a-t-il déclaré. Une exhortation, mais aussi une justification. Il a expliqué avoir toujours besoin des anciens, alors que beaucoup lui reprochent de garder autour de lui la vieille garde de l'époque Bongo. Il compte sur leur expérience pour relever les défis à venir. Politique, déjà, avec une très large coalition autour de lui qu'il faudra garder sous contrôle. Sociaux, avec de fortes demandes sur les besoins du quotidien, comme l'accès à l'eau, l'électricité, les routes ou la réfection des écoles, et économique surtout. La transition a engagé une politique budgétaire dépensière ambitieuse mais difficile à financer, surtout si les prix du pétrole restent aussi bas. François Mazet, Libreville, RFI.
Et avant de quitter le Gabon, notons la réaction d'Alain-Claude Bilibinzé, arrivé second avec 3% des voix. Il dénonce des pratiques électorales dignes de l'ancien régime, mais il ne contestera pas les résultats, une perte de temps selon lui. Au Mali, 3 militants du mouvement pour la paix et du parti d'opposition Sadi se voient refuser une libération provisoire, et cela en raison d'aveux qu'ils n'auraient jamais fait, selon leurs proches. Il s'agit de Moulay Baba Idara, Mahamoud Mohamed Mangane et Amadou Togola, détenus depuis bientôt 2 ans. Les 3 militants sont accusés de complot et d'atteinte à la sûreté de l'État, David Bachet.
Selon l'arrêt de la Cour d'appel, consulté par RFI, les 3 membres du Mouvement pour la paix au Mali auraient reconnu avoir rencontré des personnalités militaires, politiques et religieuses pour planifier des manifestations et renverser les autorités de transition. Des activités menées, selon le même document, en lien avec d'autres individus à l'étranger. Ces rencontres n'ont jamais eu lieu, ils ne peuvent donc pas les avoir avouées, assurent indignés des très proches des accusés, qui dénoncent un montage monstrueux. Sollicité par RFI, le procureur de la cour d'appel n'a pas commenté. Moulay Baba Aïdara, Mahamoud Mohamed Mangane et Amadou Togola avaient été enlevés par la sécurité d'État entre mai et juin 2023, après avoir dénoncé des exactions de l'armée lors d'une conférence de presse. Après plusieurs mois de torture, flagellation, scarification, électrocution des testicules, leur cas avait finalement été transmis à la justice. S'il y a eu des aveux, ajoute un camarade politique des 3 hommes, ils ont été extorqués sous la torture. En octobre dernier, le juge d'instruction malien en charge de l'affaire et la Cour africaine des droits de l'homme ont ordonné leur libération. Des décisions qui n'ont jamais été appliquées.
David Bachet, 2 ans de prison et 1 million de francs CFA d'amende au Bénin. Voilà la réquisition du procureur contre le cybermilitant Steve Amoussou, accusé d'être le frère Ounvi, une voix critique du président Talon, jugé devant la CRIET pour cyberharcèlement, diffusion de fausses informations et incitation à la rébellion. Il sera désormais fixé sur son sort le 26 mai prochain. Compte rendu de l'audience d'hier avec Jean-Luc Aplogan.
Pour le procureur, il n'y a aucun doute. Il affirme que l'intéressé en personne l'a reconnu à l'enquête préliminaire, sa sœur également. Puis il partage 2 constats. Le premier, depuis que Steve Amoussou est en détention, les chroniques se sont arrêtées. Deuxième constat, les premières déclarations d'un de ses avocats à la presse pendant sa garde à vue le désignaient comme frère Ounvi. Il lit quelques extraits des chroniques, s'indigne et les qualifie de menaces, d'insultes amplifiées par la anonymat. La liberté de parole a des limites, le monde est ordre, il faut parler juste, recommande le magistrat, qui conclut que Steve Amoussou est coupable des 3 infractions. Les avocats répliquent avec véhémence, accusent le procureur de vouloir condamner sans preuve. Maître Herman Yenonfa.
En matière pénale, il n'y a pas d'affirmation. Il y a des preuves, il y a des indices. Il appartient à celui qui allègue des faits d'en rapporter la preuve. Dans le cas d'espèce, on n'a pas eu de preuve, on n'a pas eu d'indice, on n'a eu que des affirmations gratuites du procureur qui doivent être balayés du revers de la main.
Maître Baparapé ironise, nous avons une belle construction intellectuelle et lyrique du procureur, mais il n'a rien prouvé. La ligne de défense sera la même pour tous les avocats, tous les conseils plaident la relaxe de leurs clients. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Cotonou, où il est 9h bientôt passé de 40 minutes, comme à Porto Novo, 10h40 ici à Paris, on retrouve tout de suite Juan Gomez, bien sûr.
Merci Sébastien Duhamel, très bonne journée, prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.